Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce message. Merci pour la Bible que tu as permis qu'on puisse avoir dans notre langue. Seigneur, fais-nous réaliser qu'on est choyé, privilégié d'avoir cette Bible-là en français aujourd'hui. Alors qu'il y a 58% des langages dans le monde qui n'ont pas la lettre d'amour de Dieu dans leur propre langue. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu dans le dernier message que la Bible était unique par sa continuité. Prochaine acétate. On a vu que c'était un livre qui était écrit sur 1500 ans d'histoire, qui avait au moins 40 auteurs, qu'ils avaient écrit dans divers endroits, dans des déserts, dans des prisons, en fuite, en déportation, dans les années d'abondance, en période de paix, en période de guerre, dans divers périodes, dans divers tons aussi, au sommet de la joie, dans le deuil et la tristesse, différentes humeurs. Sur divers continents, on avait vu l'Asie, l'Europe et l'Afrique, avec trois langues, l'hébreu, l'araméen et le grec, avec un éventail de styles littéraires qui va de la poésie à des livres plus historiques jusqu'à des livres plus prophétiques, des sujets controversés, des sujets que, si on mettrait 10 auteurs, dans la même période de temps, qui écrirait sur les mêmes sujets, comme l'homosexualité, le mariage, la soumission aux autorités, différents sujets épineux, ça ne serait pas possible d'avoir 10 auteurs dans la même période de temps, sur le même continent, qui écriraient, admettons, en unité sur ces sujets-là. Elle aborde des sujets controversés. C'est une histoire ininterrompue. On voit les livres historiques dans l'Ancien Testament qui attendent le Christ. On voit des livres prophétiques qui annonce le Christ. On voit des livres, des psaumes qui aspirent à Christ. On voit, quand les évangiles arrivent, on voit des écrits qui manifestent Christ. On voit dans le livre des Actes, des livres, des histoires qui montrent la propagation de Christ. Puis finalement, on voit l'Apocalypse, un livre qui nous montre la gloire future de Christ. Une histoire qui est continue, mais avec des gens qui ne se sont jamais parlé entre eux. Beaucoup de gens ne se sont jamais parlé entre eux. Et puis pourtant, ils écrivent un récit qui est continu. Donc ça, c'était la semaine passée. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler, du fait que la Bible est unique par sa diffusion et par sa transmission. En 1998, les sociétés bibliques avaient imprimé et distribué 20,8 millions de Bibles complètes, 20,1 millions de Nouveaux Testaments. Ils avaient distribué 585 millions de livres ou portions de la Bible. Par exemple, quand on dit une portion de la Bible, là, ça pourrait être un évangile de Jean. 585 millions. OK? Donc, juste les sociétés bibliques, il y a pas loin de 20 ans de cela, si une personne donnait une portion des Écritures ou l'Écriture entière à une autre personne à toutes les 5 minutes, ça prendrait 90 ans pour atteindre le travail qui a été fait par les sociétés bibliques dans cette année-là. Et ça continue de grandir. La Bible, c'est le numéro un best-seller. Dans le Wikipédia, on lit qu'un best-seller, c'est un livre dont le titre figure en haut des listes basées sur les chiffres de l'industrie de l'édition, le nombre de copies qui ont été imprimées ou distribuées, hein? Oui, mais c'est plus que ça. Des fois, il y a des best-sellers, c'est le nombre de copies qui ont été empruntées à la bibliothèque partout dans le monde. Ils font ça aussi. Il y a des index différents, mais ici, on parle de ceux qui ont distribué. Parce que la Bible, elle est imprimée et distribuée souvent gratuitement. Donc, elle n'est pas vendue nécessairement, mais il y a des copies qui sont données. Donc, ça fait quand même, ça tient compte de ça. Donc, le livre dont le titre figure en haut des listes basées sur les chiffres de l'industrie de l'édition. En 1998, la même année, j'étais allé chercher le New York Times, j'étais allé chercher les livres qui ont été les plus best-sellers dans cette année-là, juste pour le fun, pour qu'on puisse comparer. Il y avait Tuesday with Maury. Ça, c'est un chroniqueur sportif qui raconte ses visites à chaque semaine à un homme qui va mourir bientôt. Et c'est les leçons d'un vieil homme sage à un plus jeune. Et ça a fait une fureur dans le monde entier. Et ça a été traduit dans beaucoup de langues. il y avait quelque chose qui disait 40, mais je ne l'ai pas mis parce que je n'étais pas capable de trouver une deuxième source pour ça. On parle d'à peu près 14 millions de copies cette année-là de ce livre-là. Un autre livre, The Millionaire Next Door, le millionnaire de ton voisin millionnaire. Okay? C'est un peu ça le livre. Et cet auteur-là, Thomas Stanley et William Danko, ont fait un portrait du millionnaire de ces années-là. Son style de vie, les choix, les décisions qu'il prenne et tout ça. Et donc, c'est un livre qui a été vendu à 3 millions de copies cette année-là. Depuis son édition en 1996, mais en 1998, il est devenu best-seller. Et donc, dans toute sa vie, il a eu 3 millions. La même affaire pour lui aussi. Ce n'est pas la même année qu'il a fait 14 millions. C'est au cours de sa vie de livre, il a eu une montée en 1998. Il est resté là pendant 27 palmarès. Puis depuis ce temps-là, il a vendu 14 millions de copies. Okay? Lui, 3 millions. Talking to Heaven, ça, c'est un médium qui veut montrer aux gens comment parler avec les gens de l'au-delà. Puis il donne même un kit de cartes, là, on dirait, là, avec ça. 600 000. Donc, je vous montre ces millions de livres-là pour qu'on puisse les mettre à côté de la Bible pour voir qu'est-ce qu'elle est la Bible par rapport à ces livres-là qui sont diffusés en grand volume. Le livre des records Guinness dit que de 1815 à 1975, la Bible a été... il y a eu 2,5 milliards de copies en circulation de 1815 à 1975. Et qu'à ce jour, depuis qu'ils ont mis à jour le livre des records Guinness, disons que c'est actuellement, on dit qu'il y a environ 5 milliards de copies en circulation. Okay? 5 milliards de copies en circulation. Pour les autres livres qu'on a vus tantôt, c'est les petites lignes rouges qu'il y a là. OK? Intéressant. Les gens vont dire, vous allez même lire, je l'ai lu aujourd'hui, j'ai marqué « Most Popular Non-Fictional Book », c'est un livre non-fictif. Il y a deux catégories pour les best-sellers, les fictions et les non-fictions. Pour donner un ordre de grandeur, les Harry Potter de ce monde, le Seigneur des Anneaux, ils ont à peu près 105, 107 millions de copies, OK, qui n'atteignent même pas ici là, le dixième de cette section-là. Dans les plus hot là, livres là, qui ont été vendus là, de tout temps. Là. OK. Là, les gens, vous allez voir cet argument-là. Les gens vont vous dire, oui, mais il y a les œuvres, le recueil des œuvres de Mao Tse-tung, ou Zedong, mais Tse-tung. Ils vont dire Tse-tung, c'est T-E-T-S-U-N. Et ça, c'est dans le fond, c'est un empereur chinois. On a récupéré ses meilleures œuvres. Puis il y a un auteur qui a écrit ce livre rouge-là. Et alors qu'il était en train de le publier, il est mort d'un accident et l'empereur chinois a dit que c'était obligatoire pour tous les Chinois d'avoir ce livre-là. OK, donc entre 1966 et 1971, tous les Chinois devaient avoir ce livre-là. OK, c'était obligatoire et donc il y a eu 800 millions, c'est quand même pas négligeable, 800 millions. Mais c'est un livre qui était obligé d'être possédé. L'autre, si tu le lisais, il y en a que tu te fais arracher les yeux pour ça ou tu pouvais en mourir pour l'avoir possédé. On ne parle pas de la même catégorie de livres. Il y en a un, tu es obligé de l'avoir parce que tu es nationalement obligé de l'avoir. Puis l'autre, c'est tu pourrais même en mourir dans certains pays si tu le possédais ou si tu le lisais ou tu le proclamais dans des pays, certains pays communistes encore aujourd'hui. Donc, ce qui est important ici de voir, c'est que la Bible n'est pas un best-seller à tous les mois ou à toutes les années. Comme entre 1966 et 1971, elle s'est faite clencher bien dur. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui dirait, l'Église a besoin de 2 000 $ de plus par mois, puis le gars, il donne 2 000 $ là, ce mois-là, tu sais. Ouais, mais si on regarde un graphique, il va avoir tout, OK, c'est correct ce mois-là, mais on parle ici d'un marathon sur plusieurs années, là, ou plusieurs mois. La Bible a fait le marathon. Fait que même si y a un pays qui dit « tous mes habitants de mon pays doivent avoir ce livre-là », ça fait un sprint, ça dure quelques mois, quelques années et ça redescend. Le Seigneur des Anneaux, là, il ne continue pas à avoir des millions de ventes à chaque année. Là. Il y a eu ses heures de gloire. Chacun des livres ont eu leurs heures de gloire, mais la Bible, elle est constamment dans un marathon. Puis à un moment donné, il y a un petit feu de paille, comme les livres à 14 millions, 3 millions, 600 000. Il y a un mois, deux mois, trois mois que la Bible se fait complètement dépasser. Mais elle est, c'est comme les annonces d'Energizer, là. Hein? Elle est constante et accumule continuellement des copies qu'elle renvoie des semences partout dans le monde. À chaque mois, elle continue, elle n'arrête pas. Et je vais vous montrer comment c'est glorieux. Donc, c'est important de dire que la Bible n'est pas un best-seller à tous les mois. Si les gens vous disent « Oui, mais la Mao Tse-tung a dépassé la Bible », je dis « Oui, il a dépassé quelques mois, voire années. » Mais présentement, c'est incomparable, les copies des données plus à jour, c'est 5 milliards pour la Bible. Elle est le livre le plus diffusé dont le plus de gens la possèdent. Même s'il y a eu des sprints, le nombre de manuscrits qui sont en circulation, c'est d'aucune mesure comparable. Okay? Et elle continue à être diffusée par des sociétés bibliques en partie ou en totalité à un rythme de 585 millions d'exemplaires par an ou plus. Ou plus, mais ça, c'était les données de 1998. Intéressant, hein? Donc, la Bible est unique par sa diffusion. Maintenant, je vais vous parler de sa traduction. Dans les années 1300, il y a un autre homme qui a été une influence pour la réforme protestante. J'en ai parlé d'un dimanche. J'avais parlé de John Huss. Là, je vais vous parler d'un gars qui s'appelle John Wycliffe. Il s'appelle tout John. Il y a quelque chose de spécial avec John. Non, c'est une joke. OK. Vous riez même pas. OK. Ils sont à l'origine de bien des choses. OK, c'est une blague. OK. Cet homme-là, John Wycliffe, était théologien et philosophe. Merci, Ben, pour ton rire solidaire. Il était théologien et philosophe. Lui, il disait, l'Écriture est la base de la chrétienté. Il disait, prêcher l'Écriture excède à un degré infini la prière et l'administration des sacrements. Dans ce temps-là, on luttait contre une église établie qui était l'église catholique. Et lui est un premier qui ose se lever contre les institutions catholiques. Puis il dit, hey, les prières, puis toute l'administration des sacrements, baptême, première communion et toutes les autres, là, la prédication de la Bible surpasse tout ça et d'un degré infini. Fait qu'il s'attirait des bosses. Et il a écrit un traité qui expliquait pourquoi il faudrait traduire l'Écriture dans la langue du peuple. Et après avoir écrit ce traité-là, ben, il a commencé à écrire. Il est le premier à avoir écrit la première Bible en anglais et a participé à la rendre largement disponible. Et là, il y a eu un zèle parmi les évêques pour faire arrêter le travail de traduction et tout ça, et pour faire disparaître la vente, et ça a juste fait mousser les ventes encore plus. Et il a été aussi instrumental pour que l'Angleterre ne tombe pas sous le régime de la papauté. Il a écrit des traités, lui, il écrivait, puis il envoyait ça, puis il y a un groupe de gens qui prenaient ses écrits, puis ils répandaient ça dans l'Europe. Et ils ont fait la même affaire quand il a écrit la première Bible en anglais. Et on attachait la Bible autour du cou des martyrs, puis on les brûlait sur le bûcher avec une Bible attachée au cou. Hein? Donc, des gens qui repartaient avec des manuscrits, mais qui étaient trouvés en les possédant et qui se faisaient martyriser. Donc, cet homme-là, John Wycliffe, a été à l'origine d'un mouvement pour traduire la Bible dans la langue du peuple. Et donc, on dit que la Bible, elle est unique par sa diffusion. Elle est répandue dans le monde entier, comme tu n'as pas idée, comparativement à n'importe quoi, que ce soit des livres de fiction ou de non-fiction. Mais elle est aussi unique parce qu'il n'y a aucun autre livre. Quand un livre est traduit en trois langues, tu te dis, hey, c'est vraiment un livre important. Rares sont les livres qui font 12 langues. Et là, je vais vous partager dans combien de langues est-ce que la Bible est traduite. Le Wycliffe, l'organisation Wycliffe, ça ne vient pas de lui. Mais les gens qui ont commencé cette organisation-là, ils se sont inspirés de ce gars-là. OK, dans le fond, ça fait à peu près 74 ans que l'organisation Wycliffe existe, et elle existe pour traduire la Bible dans la langue des peuples. OK? Et là, ici, là, je ferai vraiment de l'actualité pour vous dire, regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est merveilleux. Comment ça a commencé? En 1917, il y a un missionnaire du nom de Cameron Townsend qui est allé au Guatemala, puis là, ben, lui, il pensait que tout le monde au Guatemala parlait en espagnol. Fait que lui, il amenait des Bibles en espagnol, tu sais. Savez-vous comment il y a de langues en Amérique? langues et dialectes juste en Amérique, là. Amérique du Nord, centrale, puis sud. Combien? Qui dit plus? Qui dit plus? Oh! Il dit, oh, on va redescendre un peu. 1000. Il y a 1000 langues et dialectes en Amérique du Nord. Nous, on pensait qu'il y avait juste le français. Hein? En français, anglais, espagnol. Puis portugais. Fait que dans le fond, lui, il est descendu avec des bibles espagnoles parce que lui, dans sa tête, il y avait français, anglais, espagnol. Puis il est arrivé, puis il a commencé à donner des bibles, mais personne ne pouvait comprendre les bibles en espagnol qu'il apportait parce qu'il parlait le cachiquel, une langue qui n'avait pas la Bible. Cam alors a pensé que tout le monde devrait pouvoir comprendre la Bible, alors il a commencé une école qui s'appelle The Summer Institute of Linguistics. Il a ouvert une école de linguistique. Donc, il était obligé de faire ça. Et là, il a entraîné des gens pour faire de la traduction biblique. Et le travail a grandi. Et là, en 1942, M. Cam a officiellement fondé le Wycliffe Bible Translators. Fait qu'il a parti son école, son organisme pour traduire. Donc, 1942. OK? Donc, ça fait à peu près 74 ans que ça existe. Alors, dans les décennies, il y a eu des célébrations qu'on a pu faire de ça. La première traduction a été faite en 1951. OK? Et là, ils ont pu célébrer, en l'an 2000, la 500e traduction. Donc, en 1951, la première traduction, l'organisation Wycliffe était rendue à sa 500e traduction de la Bible, en l'an 2000. On dit qu'un livre qui est traduit en 3 langues, c'est quelque chose. Un livre qui est traduit en 12 langues, c'est extraordinaire. On parle d'un livre qui est traduit. Là, ici, ils disent 500 traductions déjà. Et au même moment, ils ont commencé à se prendre un défi. C'est qu'il y aurait un projet que toutes les langues devraient être faites pour 2025. Fait que là, en l'an 2000, ils ont commencé à se faire ce projet-là. Et là, ils ont appelé ça la vision 2025. Mais en 1999, les leaders ont réalisé que ça prendrait au moins en 2150. Il faudrait se rendre en 2150, pas en 2025, en 2150 pour que toutes les nations, que tous les dialectes, qu'il y ait un travail qui soit en train d'être, que les gens soient en train de traduire dans leur langue. 2150. OK? Alors, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est inconcevable qu'il y ait des gens qui meurent partout au travers le monde sans avoir la lettre d'amour de Dieu. Et ils ont continué à mettre toujours ce nouveau but-là. Et le but, c'est la vision 2025. C'est que d'ici 2025, donc dans 10 ans, toutes les langues et dialectes du monde vont être en cours de projet de traduction. 7000 langues et dialectes dans le monde. Alors, laissez-moi vous montrer un petit peu où ce qu'on en est, où ce que le corps de Christ en est présentement dans le monde. Si on regarde ça par continent, j'ai été obligé d'aller voir 3 sites web différents pour aller chercher les données. Donc, ici, on voit les portions de l'Évangile, les testaments anciens ou nouveaux et les Bibles en entier. En Afrique, il y a ça. OK? Donc, il y a ça. Total. En Asie, donc en Afrique, 641. Sur le nombre de langues, 2011 langues, il y a 32% en Afrique des langues qui ont une portion au moins de l'Écriture ou toute la Bible dans leur langue. En Asie, et sur 570 langues ont la Bible dans leur langage, sur 2165, ça fait un 26%. Dans le Pacifique, il y a 450 langues ou dialectes qui ont une portion ou la totalité des Écritures, sur 1302 pour 31%. En Europe, 203 langues ou dialectes sur un total de 225. Tu vois que la réforme était là. Hein? Ça paraît, hein? La réforme était là. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de langues à comparer en Asie. Amérique du Nord, Amérique du Sud, à peu près 460 sur un total de 1000, 47%. Les langages construits, je vais l'éviter, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher, mais j'ai mis les chiffres s'il y a des gens qui seraient intéressés. Ça, c'était en 1996, les langages répertoriés dans le monde qui étaient encore vivants, c'était 6703, mais déjà en 2002, c'était rendu 7000, puis ce n'était pas des nouveaux langages, c'était juste une meilleure classification des langages. Donc, on parle d'un total de 2287 langues qui ont quelque chose dans leur langage, donc 392 des Bibles en entier. Ça, c'était en 98, En 2000, il y en avait 500 déjà ici. Donc, ça grandit. Maintenant, je vous montre, en 2015, qu'est-ce que Wycliffe a comme résultat. Ce n'est pas 883 portions de l'Écriture, mais 1045. Ce n'est pas 1012 testaments, mais c'est 1333 langues différentes. Ce n'est pas 392 Bibles, c'est 554 des Bibles en entier dans les langages différents. Ce n'est pas 2287 portions de l'Écriture complète ou partielle, c'est 2932. Et le nombre de langages vivants en 2015 était de 7000, pour un pourcentage de 42%. Donc, 42% des langues dans le monde ont la lettre d'amour de Dieu dans leur langage. Mais c'est quand même extraordinaire. On disait qu'un livre qui avait traduit dans trois langues, c'était un livre super. Quand il est traduit dans 12 langues, c'est extraordinaire. Mais là, il est traduit en totalité ou en portion. 2932, c'est extraordinaire comme livre. Donc, la population mondiale en 2015 était de 7,2 milliards et le nombre de personnes le nombre de Bibles, c'est pas le nombre de personnes ici, c'est le nombre de Bibles, c'est 5 milliards 540 millions. 5 milliards 54 millions. OK? Fait que, OK, non, excuse-moi. OK, je résume, je recule. Dans la population mondiale, il y a 7,2 milliards. Sur les 7,2 milliards, il y a 54 millions de personnes qui peuvent la lire dans leur langue. OK? Il y a 663 millions de Nouveaux Testaments, de gens qui ont juste le Nouveau Testament dans leur langue. Ils n'ont pas rien d'autre, mais ils ont moins le Nouveau Testament. Et il y a 281 millions de gens qui ont une portion. Peut-être qu'ils se sont fait juste traduire l'Évangile de Jean, mais ils ont une portion de l'Évangile dans leur langue. Okay? Et il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont rien pantoute. Ils sont dans le noir total. Ils n'ont pas de portion de l'Écriture, ils n'ont pas de Nouveau Testament, ils n'ont pas de Bible. Et eux autres, ils représentent 58% des langues et dialectes. Donc, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans, mais énormément de diversité. Fait que le défi d'aller traduire dans toutes les langues, ce n'est pas pour atteindre une majorité de gens. Parce que présentement, 90% de la population mondiale a déjà été touchée par l'Évangile. Ils peuvent avoir une partie, un testament ou encore la Bible en entier dans leur langue. Okay? Ça nous montre un petit peu où ce qu'on est par rapport à la traduction. Fascinant, non? Oui, question. Je vais faire une question. Quoi? Les langues majoritaires couvrent les langues. Les 42% des langues font 90% de la population. 58% des langues font à peu près de 10% du reste de la population. Fait que la majorité des gens ont la Bible dans leur langue ou une portion de la Bible. Ouais. Et Wycliffe travaille à la faire traduire pour que d'ici 2025, dans 10 ans, toutes les langues, il y ait un travail qui soit en cours. Ici, présentement, sur le 1,2 milliard, il y a 700 000 personnes qui sont visées par un projet en cours de traduction. Il y a 700, sur les 1,2 milliard, il y a juste un 500 millions de personnes dans le monde que présentement, il n'y a pas de projet là, en cours de traduire la Bible dans leur langue. Okay? On est rendu 8,3? C'est ça. OK. Donc, l'argument ce soir, là, ça ne prouve pas que la Bible, là, elle est inspirée par Dieu, mais elle est vraiment unique, par exemple. Elle est unique par la façon qu'elle a été diffusée, hein? Le nombre de copies, 5 milliards de copies dans le monde, c'est incroyable, et sa traduction, le nombre de langues qu'elle a été traduite. Donc, je pose la question, et la personne sérieuse qui entend ça, qui fait un peu de recherche, elle devra poser et répondre au moins à la question « Pourquoi il y a un effort si marqué pour traduire ce livre-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt continu à la publier et la lire au travers les siècles? » Pourquoi ce n'est pas un best-seller comme Le Seigneur des Anneaux, qui a une montée, un certain succès, puis redescend? Ou le livre de Titsung, le Mao Titsung, qui a 800 millions pendant 4 ans, mais après ça, ça redescend. Pourquoi est-ce que la Bible continue continuellement d'être, par des millions et voire milliards de personnes, vouloir être lue et acquérie au travers des siècles? Pourquoi est-ce que des gens qui seraient prêts à mourir au bûcher pour l'avoir eue en leur possession? Donc, je pose la question, on va prendre le micro, puis je vous pose la question. Pourquoi? OK. Donc, François dit que l'argument de qu'il y a des gens qui meurent pour ça. Non, parce que les gens meurent pour ce qu'ils croient être vrai. Non, parce qu'on parle du nombre de copies qui continuent malgré la persécution. Bien, c'est ça. Ces gens-là ne pourraient pas accepter d'être brûlés, tu n'aurais pas de copies aujourd'hui. Donc, le nombre de copies qui perdurent aujourd'hui, ce n'est pas par rapport au martyr. On n'est pas en train de faire un argument sur le martyr. On est en train de faire un argument que les gens sont prêts, au prix de leur vie, l'écrire. Puis le diffuser, ce livre-là, au prix de leur vie. C'est un argument certain, parce que ça veut dire qu'ils croient que ce livre-là est vrai, puis il vaut la peine de mourir pour. Moi, te dire une affaire, le djihadiste, quand il se fait sauter, il est sûr, lui, qu'il croit à son affaire. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'ici, il y a des milliards de personnes qui croient que ce livre-là, il est vrai. Ça parle de ça. On ne parle pas de l'inspiration des Écritures. Est-ce que ça se peut que ceux qui s'y consacrent aient trouvé en elle un message qui est unique? Il n'est pas juste unique par le fait qu'il est diffusé. Il n'est pas juste unique parce qu'il est traduit, mais si quelqu'un il veut le diffuser puis il veut le traduire, là, puis qu'il veut consacrer sa vie là, à transcrire dans un nouveau langage, ça doit être parce qu'il croit que le message aussi est unique. Est-ce que c'est possible qu'ils considèrent que la Bible est le message d'amour de Dieu pour les hommes et que chacun a le droit de l'avoir dans sa propre langue? Donc, il est unique dans le fait que les gens, ils se disent, chaque personne a le droit de l'avoir dans sa propre langue puisque c'est le message unique qui vient de Dieu. Donc, l'argument ce soir, ce n'est pas un argument sur l'inspiration, mais c'est pour montrer les livres de ce monde versus ce livre-là qui se démarque complètement dans sa diffusion puis dans sa traduction. On va remettre ça au Seigneur. On peut arrêter l'enregistrement. Seigneur, Père, merci pour la Bible qui est un livre unique. Aide-nous, Seigneur, à se rappeler de ça pour que quand les gens vont dire « Oh, ah ouais, la Bible », il y a des livres qui sont bien plus publiés que ça. Il y en a qui sont bien plus best-sellers que ça. On peut se rappeler qu'au travers les siècles, la Bible a fait un marathon au point où, ce que présentement, il y a 5 milliards de Bibles en circulation. Que la Bible est un best-seller, peut-être pas de mois en mois, mais d'année en année, de décennie en décennie. Elle est incomparable. C'est rare qu'on puisse se rappeler qu'un livre, quand il est traduit en 3 langues, c'est un livre qui attire notre attention. Quand il est publié en 12 langues, c'est un livre extraordinaire. Mais là, on a un livre ici qui est traduit dans 2900 langues, en portions complètes, en portions partielles ou complètes de ta Bible, Seigneur. Il y a des gens qui ont même été prêts à mourir pour en posséder une. On les a brûlés avec la Bible. D'autres, on leur a arraché les yeux parce qu'ils ne voulaient pas se départir de leur Bible. Seigneur, s'ils étaient prêts à se faire arracher les yeux, à mourir sur un bûcher, c'est parce qu'ils croyaient qu'elle était vraie, cette Bible-là, qui était unique, ce livre-là. Je te prie, Seigneur, qu'il y a des gens qui vont... On va les aider à lire ce livre-là. On va les encourager à lire ce livre-là comme étant un livre qui est complètement unique. Amen.